Eh bien, bonjour à chacun d'entre vous, et puis bienvenue à tous, et en particulier, si vous nous visitez ce matin, eh bien, à vous qui êtes là peut-être pour la première fois, que Dieu vous bénisse aussi parmi nous. Eh bien, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le premier livre des Rois, au chapitre 10. Ce chapitre commence par un récit qui nous relate la rencontre de la reine de Saba avec le roi Salomon. Alors juste un peu pour introduire ce chapitre 10 du premier livre des Rois dans la Bible. Le livre des Rois, il y a deux livres des Rois, en fait c'est un seul livre du roi avec, on pourrait dire, deux volumes. Commence avec le petit Samuel, qui deviendra le grand Samuel, juge. Le mot n'est pas très bien traduit en français, ce n'est pas un juge d'instruction, ou d'un palais de justice. C'est un homme de Dieu, porte-parole de Dieu auprès de son peuple. Samuel deviendra le dernier, on pourrait dire, représentant de ces juges avant la royauté en Israël. Il y aura ensuite le roi Saül, et puis le roi David, et le roi Salomon. Et puis le premier livre des Rois s'achève à la mort du roi Salomon avec la division de l'État d'Israël, de cette unité que David avait réalisée, division en deux parties, en deux royaumes, le royaume du Nord, 10 tribus, et le royaume du Sud, avec Jérusalem comme capitale, avec 2 tribus. Ce livre des Rois a un parallèle qui s'appelle le livre des Chroniques, là aussi 2 volumes. Et il est bon de lire parallèlement ces 2 livres. Le livre des Chroniques, vous pourrez sauter les 9 premiers chapitres. Ils sont assez fastidieux. Ce sont des généalogies. Un tel, fils d'un tel, un tel, fils d'un tel, un tel, fils d'un tel. Bon, ça va pendant quelques versets, mais les 9 chapitres comme ça, c'est un peu pénible. Maintenant, vous pouvez les lire aussi, hein, c'est pas interdit, loin de là. Mais le chapitre 10 du premier livre des Chroniques commence avec le roi Saül, avec la royauté. Et peut-être la différence entre les livres des Rois et les livres des Chroniques, c'est que les livres des Chroniques s'intéressent particulièrement au petit état de Juda, de Jérusalem, alors que, bien sûr, le livre des Rois parle aussi du royaume du Nord, de ces 10 tribus. Nous arrivons donc au chapitre 10 du premier livre des Rois, qui se situe pratiquement à la fin de ce premier livre des Rois, puisque pas la fin du livre des Rois, mais la fin de ce royaume uni, avant qu'il ne soit divisé, puisque c'est au chapitre 12, voilà, c'est au chapitre 12 qu'il y a ce qu'on appelle le schisme, une division entre le royaume du Nord et le royaume du Sud, un peu comme la Corée aujourd'hui est divisée avec un royaume du Nord et un royaume séparément, avec une partie du Nord, une partie du Sud, 2 pays indépendants, comme l'Allemagne est divisée avec l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, enfin voilà. Donc nous arrivons avec ce chapitre 10 à la fin du règne du roi Salomon. Et je vous invite à lire avec moi ce récit fascinant, de la rencontre de la reine de Saba avec Salomon. La reine de Saba, alors juste encore un petit mot d'introduction pour que ce soit bien clair. Saba était un petit pays qui aujourd'hui serait au nord du Yémen, donc pays arabe, et qui à l'époque, peut-être encore aujourd'hui, je ne sais pas, contenait d'immenses richesses, de l'or, des pierres précieuses et également des aromates, ce qui à l'époque était quelque chose de très rare, en tout cas pour ces pays du Moyen-Orient, parce qu'il fallait faire venir ces aromates assez loin. Donc la reine de Saba entendit parler de la réputation de Salomon à la gloire de l'Éternel et vint l'éprouver par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite très importante, des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Elle vint auprès de Salomon et lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon lui expliqua tout ce qu'elle demandait. Il n'avait rien de caché pour le roi, qu'elle ne pouvait lui expliquer. La reine de Saba vit toute la sagesse de Salomon, la maison qu'il avait bâtie, c'est-à-dire le temple, les mets de sa table, ou peut-être aussi sa maison habituelle, l'habitation de ses serviteurs, les fonctions et les vêtements de ceux qui étaient à son service, ses échansons et les holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Elle en perdit le souffle et dit au roi, « C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de tes paroles et de ta sagesse. Je ne croyais pas à ces paroles avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici qu'on ne m'en a pas annoncé la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que ta réputation ne me l'avait laissé entendre. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui se tiennent continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a été favorable et t'a placé sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime Israël à toujours qu'il t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. » Puis un petit peu plus loin, au verset 21 de ce chapitre 10, tout le service à boisson du roi Salomon était d'or, et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était d'or fin. Rien n'était d'argent. On n'en faisait aucun cas du temps de Salomon, car le roi avait en mer des navires de Tarsis avec les navires de Hiram. Et tous les 3 ans arrivaient les navires de Tarsis, apportant de l'or et de l'argent, de l'ivoire, des singes et des bancs. Nous arrêterons là notre lecture. Je parlais tout à l'heure d'un texte fascinant. Cet étalage de richesses, d'or à profusion, qui font pâlir les grandes fortunes de notre monde, nous place dans une situation qui peut être, pour certains d'entre nous, peut être qualifiée d'enviable. Je ne sais pas si vous souhaiteriez que votre vaisselle soit en or, mais peut-être souhaiteriez-vous gagner les 6 millions de la cagnotte de l'euro million qui a été gagnée il n'y a pas très longtemps par je ne sais pas qui. Je pense qu'il ne s'est pas fait découvrir. Vous est-il arrivé à cette occasion, quand vous avez appris cette nouvelle, quelqu'un qui, en jouant au loto, a gagné 6 millions d'euros? Qu'est-ce qu'il a de la chance? Qu'est-ce que j'aimerais bien, moi, gagner cette somme? Je pouvais en faire des choses avec tout cet argent. Avez-vous remarqué que la pub de l'euro million est faite à partir de la musique de l'Alléluia du Messie de Handel? Le gain d'une forte somme d'argent est une aussi grande nouvelle, et pour beaucoup une plus grande nouvelle, que celle de la résurrection du Christ, car dans le Messie de Handel, l'Alléluia exprime la résurrection de Jésus. Et je crois qu'un bonheur se retrouvait dans sa tombe devant une telle imposture. L'auteur de notre texte, je reviens au premier livre des Rois, se plaît à nous montrer que la renommée de Salomon avait dépassé les frontières de son petit pays d'Israël, Saba, c'était un peu le bout du monde. Ce qui montre que la richesse et la sagesse du roi Salomon étaient universellement connues. La reine de Saba mentionne à deux reprises l'Éternel. L'Éternel. Le mot éternel, on traduit parfois par Yahvé, ces quatre consonnes que les Juifs ne prononçaient pas. On ne sait pas si c'est Yahvé parce qu'on a perdu la prononciation, mais ça c'était le nom qui avait été révélé par Dieu, transmis par Dieu à son peuple. Comment une femme païenne qui vient d'un territoire éloigné connaissait-elle ce nom de l'Éternel? Au verset premier, elle dit qu'il est dit que la reine de Saba entendit parler de la réputation de Salomon à la gloire de l'Éternel. Et puis, après avoir vu toute sa richesse, et peut-être aussi en particulier sa sagesse, elle dit au verset 9, « Béni soit l'Éternel, ton Dieu, pas son Dieu, ton Dieu, qui t'a été favorable et t'a placé sur le trône d'Israël. » Qu'une reine étrangère reconnaisse la bénédiction du Dieu d'Israël et le loue est un témoignage puissant à la gloire de Dieu. Elle loue Dieu d'avoir donné à Salomon une si grande richesse et une si grande sagesse. Le mot sagesse est utilisé à trois reprises, verset 4, verset 6 et verset 8. Et elle conclut avec le verset 7, tu as plus de sagesse et de prospérité. Non, ça c'est dans le livre des Chroniques, que ta réputation ne me l'avait laissé entendre. Sagesse et richesse. Elle aussi, la reine de Saba, étale ses richesses devant le roi Salomon. Elle vient d'un pays où il y a de l'or, des pierres précieuses, des aromates, c'est ce qu'elle apporte au roi Salomon. Mais elle vient avec des questions, des énigmes, autrement dit avec des questions qui pour elle n'ont pas de réponse. Et Salomon lui donne des réponses là où elle n'en avait pas. Est-ce que ce n'est pas aussi le rôle de l'homme de Dieu ou de la femme de Dieu de nous donner des réponses là où nous n'en avons pas? Alors qu'il y a un lien entre sagesse de Dieu et esprit de Dieu, ou présence de Dieu dans la vie de celui qui exprime la sagesse de Dieu, c'est évident à travers toute l'Écriture. La sagesse dans l'Écriture vient de Dieu. La sagesse est un don de Dieu. L'apôtre Jacques écrit au début de son épître, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne libéralement. » Et c'est pareil avec le Saint-Esprit. Il suffit de demander le Saint-Esprit pour le recevoir. Luc chapitre 11, verset 13. Salomon avait reçu de Dieu une grande sagesse. Et la reine de Saba est ici témoin que, effectivement, cette sagesse de Dieu est exprimée par la bouche de Salomon. Mais Salomon était aussi extrêmement riche. Sans doute l'auteur de ce récit ne condamne pas, en tout cas ouvertement, la richesse du roi Salomon. Si cette richesse peut être utilisée avec sagesse, mais est-ce possible? Pour la gloire de Dieu, si elle ne détourne pas de Dieu, alors oui, pourquoi pas? Mais il nous dira quelques versets plus loin, au chapitre 11, que Salomon s'est détourné de Dieu et que cela aboutit à une condamnation, à un jugement de Dieu. Un royaume qui était séparé en deux.
Nous avons lu, versets 21 et 22, que la vaisselle du roi Salomon était en or, et que l'on ne s'empara ce pas de couvert en argent. Au verset 16, le roi Salomon fit 200 grands boucliers or battus. À quoi peut bien servir un bouclier fait en or? Mais voilà, c'était comme ça, c'était ostentatoire, c'était le signe de sa richesse. Son trône, verset 18, était en ivoire. Combien d'éléphants ont-ils fallu abattre pour faire trône en ivoire? Mais que cet ivoire était couvert d'orpure. C'était le trône de Salomon. C'est tout juste aussi l'or ne coulait pas en flot, j'allais dire des robinets de la salle du bain de Salomon, peut-être des fontaines de Jérusalem. Alors une telle profusion d'or ne va pas sans poser quelques problèmes de conscience. Cet étalage de richesse est-il vraiment à la gloire de l'Éternel, comme l'indique la règle de Saba au verset 1er? Dieu est-il glorifié par cet étalage de richesse? Et puis il est facile, à la lecture de ce texte, de se dire, ben c'est simple, bénédiction divine égale richesse. Et il y a toute une théologie, entre guillemets, américaine, qui véhicule cette idée que si vous vous donnez à Dieu, si vous donnez de l'argent à Dieu, comprenez à l'Église et comprenez aux personnes qui s'en mettront plein les poches, alors Dieu vous bénira et Dieu vous donnera beaucoup d'argent et beaucoup de biens matériels. Le corollaire un petit peu de ça, ce serait de dire, ben, si vous êtes pauvre, c'est que Dieu ne vous bénit pas. On appelle ça l'évangile de la prospérité. Alors, le texte que nous avons lu va-t-il dans ce sens? Sommes-nous autorisés à dire des choses semblables? Personnellement, je ne le pense pas. Ni en ce qui concerne cette théologie de la prospérité, ni en ce qui concerne ce texte du chapitre 10 du premier livre de Rois. Je ne vous apprendrai rien en disant que ce chapitre 10 se trouve juste avant le chapitre 11. Mais le chapitre 11 relate la condamnation de Salomon, le partage de son royaume, le jugement de Dieu. Verset 33 du chapitre 11 est écrit: cela arrivera parce qu'ils n'ont pas marché dans mes voies pour faire ce qui est droit à mes yeux et pour observer mes prescriptions. C'est le peuple, mais c'est aussi, bien sûr, à sa tête, Salomon. Et puis, il y a surtout le livre des Chroniques. Et c'est là où c'est intéressant de lire ces deux récits de façon parallèle. Un roi, chapitre 10, et un chronique, chapitre 9. Alors, on ne sait pas trop qui a écrit ce livre des rois et des chroniques. Mais l'intention, on pourrait dire, théologique, est un peu différente. Il est certain que l'auteur de ces textes veut véhiculer un message de la part de Dieu. Et je crois que le livre des rois est davantage un peu historique. C'est l'histoire du peuple d'Israël, donc ensuite avec son royaume du Nord et son royaume du Sud. L'intention de l'auteur du livre des Chroniques est davantage théologique, spirituelle, prophétique. Alors tout est prophétique, évidemment, hein, mais je dis davantage, dans le sens où il veut dire, eh bien, la vraie capitale, c'est Jérusalem avec le temple et pas Samarie. Et c'est de cette région-là, du sud, de la Judée, de Jérusalem, qu'ensuite il va venir un roi issu de David, un grand roi, le Messie, qui, bien sûr, à travers le Nouveau Testament, nous apprendrons par la suite, sera Jésus. Et le chroniste, l'auteur du livre des Chroniques, alors qu'on a l'impression, dans une première lecture un peu rapide, qu'il recopie un roi chapitre 10, en fait, ne le fait pas avec le mot à mot, à la lettre, mais il le fait à sa manière pour justement donner la signification qu'il veut donner. Par exemple, un roi, chapitre 10, verset 1er, la reine de Saban, on y parlait de la réputation de Salomon à la gloire de l'Éternel. Eh bien, ce « à la gloire de l'Éternel », le chroniste ne le répète pas. Cela ne se retrouve pas dans les textes des Chroniques. Nous avons ceci, textuellement. La reine de Saba a entendu parler de la réputation de Salomon et vint à Jérusalem pour l'éprouver par des énigmes. Alors, est-ce que ce serait que, pour le chroniste, ce n'est pas tout à fait à la gloire de l'Éternel que Salomon fait étalage de toutes ses richesses? Deuxième détail, peut-être plus important. Au verset 9 d'un roi, chapitre 10, la reine de Saba dit « Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a été favorable et t'a placé sur le trône d'Israël. » De Chroniques, chapitre 9, verset 8, le chroniste le rapporte. La reine de Saba dit « Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a été favorable et t'a placé sur son trône comme roi pour l'Éternel, ton Dieu. » La différence est de taille. Ton trône, le trône de Dieu, ce n'est plus le trône d'Israël, c'est le trône de Dieu. Une différence que Salomon avait oubliée. Salomon n'en était que l'occupant temporaire. Et c'est Dieu qui l'avait placé sur ce trône. C'est par la grâce de Dieu qu'il y était. Et il avait tendance à l'oublier. Et puis, troisième chose, après un roi 10, nous avons un roi 11, avec la condamnation de Dieu, les raisons du schisme et de la condamnation de Dieu. Tout de suite après ce récit de la rencontre avec la reine de Saba dans le livre des Chroniques, nous passons immédiatement à la mort de Salomon. Un peu comme pour dire que il a beau être riche, il a beau faire étalage d'une immense richesse, il reste, comme il a oublié, qu'il n'est qu'une créature mortel. Comme s'il nous disait à quoi cela sert-il d'accumuler une si grande richesse, puisqu'un jour il faut mourir. À quoi cela sert-il d'être riche si c'est pour s'éloigner de Dieu, provoquer sa colère? Oui, les plus grandes ce monde, les plus riches, ne sont pas éternels. Ils finissent par mourir et se retrouver devant Dieu pour rendre compte de leur vie terrestre. Je ne suis pas un fan de Johnny Hallyday. Vous l'avez sans doute compris. Ça ne nous étonne pas. Ni dans ma jeunesse d'ailleurs non plus. Bien que nous avons vécu un peu parallèlement. Mais lui dans son monde à lui, et moi dans mon monde à moi, qui est complètement différent. Il m'arrive parfois c'est rare, parce que ce n'est pas un personnage qui s'affiche beaucoup de Johnny, mais je l'ai vu une fois rentrer dans sa Ferrari. J'ai entendu dire qu'il avait un chalet à la hanche en tombant sur son yacht. Et puis il a entrepris dernièrement une série de concerts qu'il appelle, je crois, les derniers concerts, hein, les concerts d'adieu, parce que, si j'ai bonne mémoire, il va avoir 66 ans. Et je crois que avoir aussi entendu dire que le dernier chant qu'il a chanté lors de son concert à Lille, c'était le chant de Gilbert Bécaud, « Et maintenant, que vais-je faire ?» Et c'était un peu pathétique d'entendre ces femmes pleurer la vieillesse de Johnny, le départ de Johnny, et d'entendre dire « Mais il est tout pour moi, c'est toute ma vie, Johnny. » Un peu comme s'il ne pourrait plus vivre une fois que Johnny ne serait plus là. Oui, un peu pathétique, c'est vrai, de voir ces hommes ou ces femmes riches. Alors, je ne connais pas Johnny en particulier, je ne sais pas ce qu'il a au fond de son cœur, je ne peux pas non plus le juger. Mais en tout cas, l'image qu'il a donnée, c'est pathétique pour ceux qui ne vivent que par lui. C'est un peu l'image aussi du roi Salomon. Quel regard Jésus porte-t-il sur Salomon et sur cette rencontre entre la reine de Saba et Salomon? La réflexion de Jésus sur l'Ancien Testament est toujours très éclairante. Alors Salomon était riche, très riche. Je le répète, il mangeait dans des assiettes en or, il buvait dans des coupes en or, il s'asseyait sur un trône en or, il était vêtu de vêtements probablement dits d'un Pierre Cardin ou d'un Karl Lagerfeld, mais sa grandeur n'était rien comparée à, pour Jésus, un lys des champs. Matthieu chapitre 6, verset 29, Jésus dit, « Je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un d'eux, un lys des champs. » Nous avons ici un joli bouquet de lys. C'est pas un lys, mais il y a des lys quand même. Alors je ne sais pas comment s'appelle cette fleur. Je vais la faire passer. Il y en a deux, juste plusieurs. Voilà. Tiens, si tu veux la regarder d'abord, la faire passer. Alors, imaginez la richesse de Salomon. Imaginez ses assiettes en or, ses coupes en or, son trône en or, ses boucliers en or. Imaginez son palais, sa richesse immense. Et regardez cette fleur. Et dites-vous, la richesse du roi Salomon n'est rien à côté de la beauté de cette fleur. C'est ce que dit Jésus, c'est pas moi qui le dis. C'est ce que dit Jésus. Et pourtant, dit Jésus, une fleur, c'est très passager. Ça dure quoi? Une semaine, hein, dans un vase, dans votre appartement, chez vous. Voilà. Or, l'immense richesse de voir Salomon n'est rien à côté de la beauté de cette fleur qui passe actuellement dans les rues. C'est ce que dit Jésus, cela relativise la richesse de ce monde. Et Jésus conclura en disant, ne vous inquiétez donc pas de quoi vous mangerez ou de quoi vous serez vêtu, car votre Père céleste prend soin de vous, sait de quoi vous avez besoin. Voilà comment Jésus juge la richesse du roi Salomon. Et puis il y a un autre texte, Matthieu chapitre 12, verset 42, où Jésus dit, la reine du Midi, alors c'est la reine de Saba, hein, le Midi c'est le sud, et Saba c'était donc au sud de Jérusalem, hein, La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération, la génération de Jésus, et la condamnera, la génération de Jésus, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici, il y a ici plus que Salomon, dit Jésus en parlant de lui. Alors il dit trois choses. Premièrement, il y aura un jugement. La terre entière sera convoquée. Chacun devra rendre compte de ce qu'il aura fait, de sa vie, de ses richesses, de ses décisions. Deuxièmement, Jésus dit, la reine du Midi est venue de loin pour entendre la sagesse de Salomon. C'est pourquoi elle pourra condamner ceux qui ne cherchent pas la sagesse de Dieu. Elle a fait l'effort de venir de loin pour se renseigner, pour savoir de quoi il s'agissait exactement, pour poser des questions peut-être profondes qu'elle se posait au fond d'elle-même. Et puis, les gens de l'entourage de Jésus méprisaient Jésus, l'ont crucifié, se moquaient de lui, alors qu'il est la sagesse personnifiée, la sagesse de Dieu en personne. Et ces gens seront jugés même par la reine de Saba. Alors, cette reine de Saba qui est venue avec de grandes richesses, comme cadeau offert à Salomon, est repartie avec de plus grandes richesses encore. De Chroniques chapitre 9, verset 12, nous dit qu'elle est repartie avec plus de richesses que ce qu'elle avait apporté au roi. Je crois que Dieu donne aussi avec générosité. Il ne s'agit pas, si je suis contre la théologie de la prospérité, je ne suis pas non plus pour une théologie de la pauvreté. Mais c'est à chacun de voir ce qu'il doit faire de sa vie, comment s'organiser. Certains préfèrent être moines et ne rien posséder, mais pourquoi pas, c'est leur droit, s'ils veulent se consacrer entièrement au Seigneur, pourquoi pas. Mais chercher la sagesse de Dieu, chercher Jésus, c'est primordial, parce que c'est Dieu qui nous envoie Jésus pour qu'il dirige notre vie, pour qu'il soit notre Seigneur, notre Sauveur, et qu'il éclaire notre vie. Donc la vraie sagesse, c'est ce que dit Jésus aussi dans ce texte. La vraie sagesse, c'est Jésus. Et lui n'a pas cherché à manger dans des plats en or. Bon, on peut vous rappeler la vie de Jésus, vous la connaissez. Il n'a pas soulevé une armée de soldats pour conquérir des peuples, ni avec des boucliers d'or, ni avec des boucliers normaux. Il ne s'est pas laissé corrompre par le diable qui voulait lui promettre ou offrir tous les royaumes de la terre. Mon royaume n'est pas de ce monde. Il est le fils de David. Et là, c'est intéressant parce que il ne s'appelle pas, ou le Nouveau Testament ne l'appelle pas le fils de Salomon, mais le fils de David. Et dans Arnois chapitre 11, Dieu dira qu'il rejette Salomon, qui n'était pas comme David. Alors David n'était pas parfait, il était loin d'être parfait. Mais il n'a pas versé dans l'idolâtrie à la fin de sa vie. Il est resté fidèle au Seigneur. Alors que Salomon a choisi de servir des dieux étrangers et donc d'abandonner son Dieu. Jésus, fils de David. David ici comme symbole de celui qui est fidèle au Seigneur, et non le fils de Salomon qui a fini dans l'idolâtrie. Il y a beaucoup dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament de gens qui commencent bien avec le Seigneur et qui finissent loin du Seigneur. À chacun de nous aussi ce matin, à voir ce que Dieu attend de nous, à chercher sa richesse, à nous confier au Seigneur, en Jésus, la vraie aussi la grâce d'être fidèle à son service jusqu'à la fin de notre vie. Amen.